Christian Magnan pour la conférence du 14 décembre 2001. Voilà, ça c'est le, bon, c'est le clap. Christian Magnan, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes astrophysicien, vous travaillez à l'Université de Montpellier. Et vous êtes rattaché au Collège de France et vous aviez été chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris avant de travailler à Montpellier.
Tout à fait, oui.
Alors, votre propos, évidemment, vous êtes astrophysicien, vous pourriez nous parler des étoiles, de tas de choses, mais votre propos de ce soir, c'est justement, vous êtes penché un petit peu sur la science, sur son mode de fonctionnement, sur ses propositions, qu'est-ce qu'il faut en penser, où en sont les limites, et vous êtes un peu le défenseur d'une science vivante, avec ses limites et ses imperfections, un petit peu contre une science théorique, un peu hégémoniste, qui prétend tout connaître et qui et maîtriser le monde. Vous avez résumé vos pensées dans un livre qui s'appelle « La nature sans foi ni loi » qui est actuellement épuisé, mais vos réflexions, on peut les trouver intégralement sur votre site internet, qui est accessible d'ailleurs via le site de la SAN. Alors je vais faire un petit rappel avant de vous céder la parole. Rappelons que la science, c'est avant tout une méthode, et avant d'être une somme de résultats ou de connaissances, et ces résultats sont obtenus un petit peu contre l'intuition. L'homme a dû s'affranchir en fait de cette intuition, notamment par l'expérimentation, l'expérience, et en astronomie, en particulier par l'observation. Alors les propositions de la science ne sont pas toujours simples et intuitives. Et pour les rendre accessibles, très souvent, on a recours, non pas, pas toujours les scientifiques, encore qu'ils soient coupables un peu eux aussi, mais surtout à travers les médias, on a un peu simplifié le discours scientifique, et en le simplifiant, souvent on l'a déformé, mais cette déformation, les scientifiques eux-mêmes en sont victimes. Alors vous dénoncez, vous, un certain nombre de dérives qui conduisent à des inexactitudes, pour ne pas dire à des erreurs dans les propositions scientifiques. Et ces erreurs sont un petit peu les mêmes que par le passé, où on pensait, parce qu'on ramène un peu, on a tendance à tout ramener à soi. Alors, parmi ces dérives que vous dénoncez, en fait, d'abord, pourquoi vous les dénoncez et quelles sont celles qui vous paraissent les plus criantes, si on peut dire ?
Oui, j'en parlerai à la conférence. Mon livre est né un petit peu effectivement d'une indignation, disons, de voir des scientifiques qui avaient une attitude en effet un peu dominatrice, qui pensaient qu'ils connaissaient tout le monde, qu'ils savaient tout, qu'ils pouvaient imposer leur point de vue. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup gêné. Et je crois que c'est en réaction contre ça que j'ai commencé à réfléchir. Alors bon, il y a beaucoup d'aspects effectivement du problème. Là, vous soulevez l'aspect d'inexactitude. Ben, le mieux, c'est de prendre un exemple tout de suite. On entend beaucoup parler en ce moment, enfin, on n'entend parler que de ça d'ailleurs, de la question de savoir si l'univers est fini ou infini. Or, tout physicien devrait savoir que l'infini n'existe pas. Donc l'infini n'existe pas, et ça me paraît quelque chose de grandiose, de dire qu'on peut parler de l'infini, alors que, bon...
Ce que vous voulez dire, c'est que l'infini est une notion mathématique, hein, avant d'être une notion physique. Parce que les mathématiques sont effectivement le support un peu du formalisme scientifique, mais il ne faut pas prendre non plus le support lui-même, la représentation du monde qui est fournie par les mathématiques, pour le monde lui-même. C'est un peu ce que vous dites.
Tout à fait, ça c'est tout à fait l'aspect du problème. L'infini en mathématiques, il n'y a absolument aucune difficulté. L'infini en mathématiques, ça ne me gêne pas et ça existe. On peut dire que c'est un concept qui est tout à fait utile, mais c'est un concept. Et en effet, dans ma réflexion, j'ai réfléchi, si vous voulez, à ce lien qu'il y a entre justement la théorie, disons, et le monde réel. C'est ça qui me passionne, qui me fascine un petit peu, et toute ma réflexion tourne autour de ce thème. Alors on peut prendre un autre exemple justement relatif à l'univers, et qui justement rejoint un petit peu ce que vous rappeliez tout à l'heure. C'est que en ce moment on pense... Il y a un principe cosmologique qui énonce que l'univers justement est parfait et complètement symétrique, que la densité est homogène partout. Alors ça, en effet, ça rejoint exactement les erreurs que commettaient les anciens quand ils pensaient que tous les mouvements étaient circulaires. Et là, on est en train effectivement de à nouveau confondre deux domaines. Le domaine des mathématiques qui est le domaine de la perfection. Alors là, il n'y a absolument aucun problème. Effectivement, les mathématiques, c'est parfait. Un cercle, c'est quelque chose qui en effet est parfait. Mais ce qui me fascine, c'est que dès qu'on l'applique au monde réel, justement, on s'aperçoit que le monde réel n'est pas pareil que, n'est pas pareil que la théorie. Donc ça, c'est un exemple type en cosmologie, disons.
Oui, ça nous rappelle en fait que les mathématiques, bon, vous dites que le cercle, par exemple, est parfait. Il est parfait dans une acception, lorsque l'on... la notion de parfait est une notion humaine. Le cercle en lui-même, mathématiquement, qui est une figure géométrique, il n'est ni parfait ni imparfait. C'est peut-être aussi les mathématiques sont souvent utilisées pour projeter sur les choses, le monde, les souhaits un peu humains, justement, de perfection, et finalement, la géométrie mathématique sont un peu le support idéal. Mais c'est vrai que c'est une dérive.
Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vous suis sur ce point-là. Justement, j'ai discuté avec un ami récemment de ce point-là. On s'est accroché sur le mot perfection, de savoir d'où venait, pourquoi j'employais ce mot de perfection. Je ne sais pas, quand même, le cercle représente un état de symétrie totale. Donc, on peut dire que quand même, c'est une figure parfaite par des critères, je dirais, objectifs. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Mais de toute façon, si, parce que c'est important, parce qu'à chaque moment... Ça, c'est le point de vue que je défends aussi. Il faut que la science avance avec un souci de perfection. C'est-à-dire que quand on a rejeté les cercles, on a été obligé de trouver une autre perfection, entre guillemets, qui était celle de l'ellipse. L'ellipse, en quelque sorte, c'est quelque chose qui est parfait, en ce sens que c'est déduisible d'une loi qui est simple, disons. Ça, c'est pas empirique, voilà.
Et en fait, là, ce que vous soulignez, vous avez raison, c'est cette volonté de perfection. En fait, ça peut s'appeler la cohérence. Ce qu'on cherche peut-être à travers les représentations successives qui collent plus ou moins à la réalité, dès qu'une théorie, par exemple, ne colle plus. Vous le dites d'ailleurs quelque part dans votre livre, contrairement à ce qu'on croit, une simple observation ne peut pas rejeter une théorie. C'est simplement qu'il faut trouver une théorie plus large qui englobe la première. Et cette volonté de trouver quelque chose de plus large, de trouver une nouvelle perfection, en quelque sorte, c'est ce que vous dites, quand l'ellipse remplace le cercle, et ça, c'est véritablement le moteur de la science, et c'est tout le paradoxe de la science, de vivre avec cette volonté de perfection, et quand on l'a trouvé, de ne pas prendre la chose qu'on a trouvée pour la réalité elle-même.
Oui, c'est tout à fait ça. Bien résumé. Et donc, c'est ce qui me fait dire, qui m'amène à penser que justement la cosmologie en ce moment est en plein dans une sorte d'impasse, parce que justement elle en est revenue presque à l'idée qu'on avait à l'époque, enfin que tout justement était sphérique. Et en ce moment, on ne parle que de modèles qui sont absolument homogènes et isotropes. Et c'est dans ce cadre-là, dans cette fausse question, dans cette fausse problématique, que justement surgit le problème soit fini, soit infini. Mais il faut dépasser évidemment ce point de vue, enfin à mon avis. Mais si on reste à ce point de vue, on est complètement bloqué. Tant qu'on parlera uniquement des modèles homogènes et isotropes, eh bien effectivement on sera coincé. Parce qu'on a quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Donc forcément on va découvrir des choses qui ne sont pas exactement pareilles que le modèle. Donc on va découvrir qu'effectivement le monde n'est pas ce qu'on pensait qu'il était. Mais ça c'est pas étonnant. Enfin je veux dire qu'on devrait savoir ça depuis longtemps.
Alors on a un autre problème, effectivement, parce que on peut décrire certains mondes ou certaines parties du réel avec une représentation relativement simple à trois dimensions, qui est notre univers un peu familier, macroscopique. Mais dès qu'on entre dans des mondes totalement différents, par exemple l'infiniment petit ou l'infiniment grand, cosmologique, là on a recours effectivement à des notions, par exemple les quatre dimensions, l'univers, l'espace-temps, des choses qui sont finalement issues de l'observation et de l'expérience, et qu'on a reformulé d'une façon, en tout cas qui sont issus d'une volonté de reformuler d'une façon qui soit plus synthétique, soit plus cohérente, mais qui échappe à notre intuition. Et je pense que d'une part, il ne faut pas que nous souhaitions avoir toujours des représentations faciles et intuitives. D'un autre côté, c'est pas parce qu'elles sont compliquées qu'elles sont forcément réelles non plus.
Oui, le meilleur exemple à ce propos, enfin, ce qui me paraît excessivement parlant, c'est la découverte par Einstein finalement de la relativité générale. Et la découverte en particulier de ce concept qui pour moi est la découverte, je dirais, de tous les temps, donc dont j'aimerais parler, qui est ce concept d'univers fini. Un univers qui est fini sans frontières, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et ce qui est fabuleux, c'est que ça, c'est pas l'expérience qui peut le donner. C'est un concept qui est venu uniquement, on va dire, du cerveau humain. Donc c'est purement théorique. Et ce qui est absolument génial, quoi, formidable, qui montre que là, la science, elle a bien marché, c'est que ce concept qui est purement abstrait, c'est vraiment le mot qui convient, est théorique, donc qui ne se rapporte pas du tout à l'expérience, qui ne se raccroche pas du tout en quoi que ce soit à l'expérience, parce que c'est complètement contre-intuitif et ça heurte le sens commun, et bien justement, c'est ce modèle qui était abstrait, infiniment abstrait, on va dire, qui était très abstrait, qui justement colle à la réalité. Alors ça, c'est justement ce qui me fascine dans ce mouvement de la science, ce qui veut dire que la science ne fonctionne que par un aller-retour constant entre l'observation et la théorie. Il ne peut pas y avoir uniquement l'observation. Alors l'exemple que j'aime bien donner, je pense que, je commencerai peut-être par là d'ailleurs, c'est qu'on a mis quand même 2000 ans pour trouver que ce n'était pas le soleil qui se levait, mais que c'était la Terre qui s'abaissait. Et donc, ça, c'est typiquement contre ce qu'on voit. Et ça me paraît le meilleur exemple pour montrer que la science, l'astronomie en particulier, mais toute science, mais parlons de l'astronomie surtout, la science n'est pas une science purement observationnelle. Mais elle n'est évidemment pas non plus une science purement théorique. Ne me fasse pas dire ce que je ne veux pas dire.
Alors, juste avant d'arriver à la réflexion que ça me suscite, au propos, je dirais, pour compléter votre appréciation d'Einstein, c'est qu'aujourd'hui, Einstein a réconcilié le monde avec la vision ancienne, et on peut dire, si on veut, on peut dire que c'est le soleil qui se lève. Il n'y a aucun problème en relativité. En revanche, la démarche que vous soulignez d'Einstein, c'est-à-dire, finalement, c'est sorti du cerveau humain, ça a donné une belle théorie, et effectivement, le monde semble répondre à cette théorie, c'est typiquement la démarche du théoricien. C'est vrai que on commence, pour bâtir une théorie, on ne peut pas la bâtir en rassemblant les observations et en rassemblant ce qui existe. On est obligé de les rassembler en une théorie nouvelle que l'on invente avant de la vérifier. Comme par exemple la gravitation, voilà.
Je pense qu'il faut absolument les deux. C'est-à-dire que là, c'est pas que j'ai exagéré, mais il faut prendre les deux éléments. C'est-à-dire que la théorie d'Einstein est sortie du cerveau, mais il a quand même fait des tas de choses et il a réfléchi aussi aux observations. Et à côté, bon, ça c'est un point absolument fondamental de l'histoire, c'est qu'en même moment, il y avait justement les observations de l'expansion de l'univers. Par Hubble qui a constaté justement que les galaxies s'éloignaient de la nôtre, de cette vitesse de fuite des galaxies. Et donc, du jour au lendemain, c'était extraordinaire qu'au même moment, on ait à la fois l'observation qui confirme la théorie et la théorie qui colle à l'observation. Mais ce qui est frappant, c'est que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Les observations seules, ça, je suis prêt à l'affirmer, ça ne sert à rien. Mais une théorie seule, attention, ça ne sert à rien non plus. Et si le sujet de la conférence, c'est un petit peu la science tourne en rond, la science, je pense, peut tourner en rond à l'heure actuelle, dans certains domaines. Bon, pour ne pas cacher les choses, je pense par exemple à la théorie des cordes, qui peut-être tourne en rond parce qu'elle est trop théorique et n'a justement aucun rapport avec le réel. Et donc une théorie qui n'a aucun rapport avec le réel, je pense que c'est une théorie qui est complètement perdue et qui est complètement stérile. Il faut absolument qu'elle revienne au réel. On n'a pas le droit de dire, d'inventer tout ce qu'on veut. Ça, c'est pas possible.
Oui, parce que l'un des principes pour bâtir une théorie, c'est tout de même de partir d'interrogations que nous avons à propos de l'observation ou des lois préexistantes. Ces lois, la démarche du scientifique, c'est toujours d'essayer de les réunir en une théorie unique, hein, c'est un peu le principe unificateur, mais c'est aussi une volonté de simplification, hein, sur la croyance qui est souvent vraie, que ce qui est simple est peut-être plus vrai que ce qui est compliqué. Donc pour cela, on a recours à une nouvelle théorie que l'on invente. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas l'inventer de toute pièce pour ne rien expliquer, finalement. C'est ce que vous soulignez. Alors ça m'amène à ma question. Effectivement, peut-être qu'autrefois, on cherchait des théories pour expliquer les choses. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une dérive où le scientifique, étant donné qu'il n'est plus confronté à une obligation de décrire le réel, puisqu'on est dans des domaines tellement irréels, va-t-on dire, eh bien, est-ce que le scientifique n'a pas tendance à chercher des théories pour des théories?
Mais il faut reconnaître qu'on est en ce moment dans une situation difficile. Moi, je n'ai pas la solution. C'est vrai que les problèmes qui se posent, contrairement justement à la façon dont ils se posaient, disons, au début du XXe siècle, nous avons peu d'éléments pour y répondre. Parce que s'il y a une question théorique qui se pose, c'est la question relative, on va dire la question théorique avec un grand L, c'est la question relative au Big Bang, au début de l'univers, et finalement au début de la physique, au début du temps, au début de l'espace. Et là, c'est vrai qu'on est confronté à un domaine où on n'a absolument aucune observation. Donc les théoriciens peuvent fantasmer sur tout ce qu'ils veulent, et il faut reconnaître qu'ils ont la partie difficile, parce que justement les observations manquent. Et c'est là qu'on peut, réfléchir au fait aussi que l'univers, ben on n'en a qu'un, donc on ne peut pas expérimenter l'univers. Donc c'est un objet de science qui est un petit peu particulier, on va dire justement. Le propre de l'univers, c'est d'être particulier. Et c'est vrai qu'on ne voit pas comment on peut avoir justement dans ce domaine un champ expérimental. Alors ça, si j'avais la réponse, je vous la donnerais. Mais c'est vrai que c'est une difficulté propre à notre époque actuelle. Alors je soutiens aussi une idée justement qui heurte beaucoup les gens, et énormément, mais j'assume un petit peu et j'essaye de la défendre. Je dis que justement, du côté de la physique, disons de la physique de base, de la physique de tous les jours, de la physique ordinaire, je prétends que nous connaissons tout, enfin, à condition de s'entendre sur le terme « connaître tout ». Ça veut dire que je pense que nous avons les théories voulues. Par exemple, on a découvert toutes les sources d'énergie. Il serait complètement illusoire de se dire qu'il y a d'autres sources d'énergie. Alors, le problème, la situation est d'autant plus frustrante. C'est-à-dire que on est, je pense, dans une situation où on connaît les lois de la physique, mais disons, on ne sait pas les appliquer, pour dire les choses brutalement. Et l'exemple qui me vient à l'esprit et que je développe un petit peu parce qu'il me tient à cœur, il tient au cœur de tout le monde d'ailleurs, c'est la question de la vie, très simplement. On peut penser quand même que tous les processus physiques, chimiques, pour fabriquer la vie, on les connaît de façon fondamentale. Mais personne ne sait à l'heure actuelle comment les appliquer. Donc ça, c'est d'ailleurs un terme que je développe souvent là, dans mes réflexions. C'est cette difficulté de passer à l'application. On sait faire la théorie, mais la science ne sait pas faire l'application.
Oui, mais ce que vous soulignez à propos de la vie, vous avez raison, parce que là, on touche réellement à la limitation d'une démarche qui serait du type analytique prospectif. C'est-à-dire, on voudrait expliquer le synthétique par l'élémentaire, le compliqué par le simple. On voudrait expliquer un ensemble par ces éléments dont on maîtriserait la logique à cette échelle. Mais en réalité, effectivement, la démarche qu'il faut peut-être avoir, c'est se poser des questions d'échelle. Il y a des échelles où la logique n'est pas la somme des logiques élémentaires. C'est notamment le cas de la vie.
Oui, je m'engage pas dans ce débat, parce que là, peut-être que vous avez pris la vie, disons, dans un sens un petit peu au-delà de ce que je le prends. Je veux parler essentiellement, si vous voulez, de l'astrophysique, pour rester dans un domaine que je connais. Et on va pas s'embrayer sur les sciences de la vie et les sciences humaines. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas de phénomènes. Mais par exemple, j'en prends un autre qui, justement, lui, est purement physique. On ne sait pas comment se forment les planètes, on ne sait pas comment se forme la Terre, on ne sait pas comment l'eau est arrivée sur Terre. Je veux dire que voilà, tout un ensemble de problèmes dont nous ne connaissons pas la solution, mais on peut penser quand même qu'il n'y a pas de miracle pour faire ça. C'est des processus, c'est de la mécanique, c'est de la chimie, c'est de la physique. Je veux dire que les lois de Newton ne sont pas violées, les lois de la mécanique sont respectées. Tout est respecté scrupuleusement. Donc si vous voulez, s'il y avait un étudiant génial, en principe, il devrait savoir faire ça. Si on lui donne les lois de la physique, il devrait savoir fabriquer une planète. Mais tout ce qui relève de l'hydrodynamique en particulier est quelque chose qui est complètement inconnu. Donc voilà les domaines, si vous voulez, où la science a des difficultés, mais avec deux domaines bien distincts. Un domaine où, on va dire, on connaît les principes, on ne sait pas les appliquer, et un domaine où, alors là, c'est un petit peu l'inverse, mais on n'a pas grand-chose. On a des idées théoriques à l'appel, mais souvent, quand un fait est inexpliqué, il y a toujours beaucoup de théories. Quand il y a beaucoup de théories, c'est très mauvais signe. Et voilà, donc ces deux domaines sont un petit peu différents dans l'esprit.
Alors d'après vous, d'où ça vient cet état de fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une situation différente des siècles passés? Est-ce que nos scientifiques sont moins bien formés? Parce que on pourrait penser a priori, comme la science était faite il y a deux siècles, il y a trois siècles, c'était essentiellement des gens qui étaient totalement passionnés, investis et souvent fortunés, qui émettaient leur fortune. C'était des amateurs, mais des amateurs extrêmement éclairés, on pourrait dire des professionnels, alors que quand la science s'est instituée, peu à peu, on a vu apparaître des gens qui étaient au demeurant très bien formés dans les écoles, mais qui en même temps faisaient de la science une profession avec peut-être des spécialisations, peut-être justement une simplification de leur univers, qui fait que leur, finalement leur culture, pour beaucoup d'entre eux bien sûr, hein, pas tout le monde, était peut-être limitée. Est-ce que ça n'est pas un facteur réducteur sur leur vision des choses et sur leur possibilité justement de bâtir la science aujourd'hui?
Là, je vais un peu me dérober à mes responsabilités, répondre lâchement, puis je ne sais pas si je sais répondre. Bon, c'est pas vraiment... je ne sais pas si je sais répondre à ça. Moi, j'essaye d'établir un diagnostic, et bon, c'est vrai que quand même, je me place à l'intérieur de la science, c'est-à-dire que si je fais une critique de la science, en gros, pour simplifier au maximum, je dis, bon, ben ça, c'est faux, ça, c'est... Il est faux de parler de l'infini, par exemple. Donc, j'établis un constat. Bon, sinon, bon, quand même, les éléments de réflexion qui me viennent à l'esprit, c'est vrai que je suis excessivement frappé par, on va dire, l'hyper-productivité quantitative, au niveau quantitatif, de la science à l'heure actuelle. Et ça, je crois que c'est extrêmement dangereux. Alors, je lancerai volontiers, d'ailleurs, une petite pique, ou même une grosse pique contre l'informatique, qui je ne sais pas si elle me rend... De très grands services dans certains domaines, parce que à l'aide de l'informatique on peut faire tout ce qu'on veut, on peut produire, ça c'est clair qu'on peut produire de façon quantitative, mais trop facilement je dirais. Et donc maintenant se développe une certaine mode qui consiste à modéliser. J'ai un exemple criant. L'exemple criant, c'est tout simplement les modèles qu'on fait de l'atmosphère terrestre, mais on pourrait le dire aussi de l'atmosphère des étoiles. L'atmosphère terrestre en ce moment, l'hydrodynamique est un domaine pour lequel, j'allais dire vulgairement, la physique patauge. Et la seule chose qu'on a trouvée, enfin la seule méthode qu'on propose en ce moment, c'est l'informatique. C'est-à-dire à outrance, continuer à informatiser, à réduire les systèmes numériques. Alors moi, je prétends qu'on n'a pas les bonnes équations. C'est-à-dire qu'on est en train de mailler la Terre avec à l'échelle de 10 000 km, de 1000 km, mais on ne va pas continuer à l'échelle de 1000 km. Donc je prétends de 1 mètre, etc. Donc je prétends que le processus lui-même, la physique elle-même, on n'a pas suffisamment réfléchi. Et que donc, on va faire de l'informatique, on peut toujours en faire, on peut toujours développer tous les modèles qu'on veut, mais il y a une limitation qui est énorme et qui est une limitation fondamentale. Alors sans dire encore que tous les travaux qui sont faits à l'heure actuelle s'auto-justifient. Disons qu'il y a de très grands projets astronomiques justement où l'informatique joue un rôle considérable, mais on ne se pose pas assez la question du modèle qui est sous-jacent et du modèle qui va permettre d'expliquer justement toutes ces données.
En somme, ce que vous dénoncez, et vous avez sans doute raison, c'est que il est plus facile de faire de l'analyse et ensuite d'utiliser des moyens prodigieux pour accumuler des résultats d'analyse en espérant que de cette montagne de données surgira une vision cohérente, c'est-à-dire une théorie. Et c'est vrai que autrefois on n'avait pas cette facilité, on était peut-être obligé d'être un peu plus pertinent sur le plan intellectuel, qu'aujourd'hui on peut faire illusion avec ce genre de méthode qui n'est pas une méthode au fond. Et donc là on est un peu victime de nos moyens, de moyens d'investigation.
Oui, c'est ce qui me fait dire effectivement que la science tourne en rond. Effectivement, je ne vois pas très bien comment on peut en sortir, d'autant plus que c'est un mouvement qui s'auto-justifie. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Écoutez, pour résumer la situation, c'est très simple. Je crois que, tout simplement, un chercheur maintenant, un chercheur scientifique, c'est de ça dont on est en train de parler, c'est du métier quand même de chercheur. Un chercheur n'a plus les moyens de réfléchir maintenant. Et je dis que quand un chercheur n'a plus les moyens de réfléchir, eh bien, il me semble qu'il y a quelque chose qui va mal dans la science, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez un étudiant, par exemple, maintenant, si vous dirigez une thèse, et que cet étudiant, il faut absolument, pour des impératifs administratifs et autres, qu'il ait terminé son travail dans les 2 ans ou dans les 3 ans qui viennent, ben vous ne pouvez pas le mettre sur un sujet où il va être obligé de réfléchir, de dépenser sa matière grise pour essayer de faire avancer justement les concepts. Si c'est pour exploiter un programme, il n'y a absolument aucun problème, et c'est ce qui se fait. Donc il va faire un programme, il va faire des publications, parce que maintenant les chercheurs sont jugés au nombre de publications qu'ils font, mais c'est effectivement ce que je pense, la qualité au détriment de la quantité. Et là, c'est vrai que je trouve que la science est mal engagée.
Je vais introduire un brin de biologie dans ce que vous dites, mais pas dans le sens de tout à l'heure. Et j'ai tendance à penser, ça ressemble beaucoup à ces organismes qui se fourvoient dans des voies d'évolution dont on sait pertinemment qu'elles seront des échecs lamentables, mais comme le système n'a pas d'autre logique que de s'auto-reproduire, et on a affaire à des systèmes sociaux, à des systèmes de dotation de postes, de crédits, de jugement par les pairs, qui sont effectivement, qui sont une des fiertés de l'institution scientifique, mais qui en sont aussi un gros travers, parce que ce sont des facteurs d'auto-reproduction du système.
Oui, il est assez frappant que je pense que le système est bouclé. C'est-à-dire que, on peut en parler de ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même des articles, si vous voulez, qui sont refusés. C'est-à-dire que ce qui est très frappant en ce moment, c'est que la critique, disons, à l'intérieur de l'Athens, c'est impossible. Et ça, il y a quelque chose qui effectivement n'est pas acceptable. Parce que quand même, le propre de la science, c'est de se critiquer. C'est-à-dire qu'il faut effectivement essayer de montrer qu'on est juste, donc répondre à des argumentations. Moi, quand je pense à ce qui se passait aux savants d'antan, qui, passez-moi l'impression qu'ils sont mêlés, mais au moins qui se disputaient, etc., qui faisaient valoir les arguments avec plus ou moins de bonne foi, d'ailleurs, mais au moins qui se battaient pour défendre leur cause et qui essayaient de montrer que leur cause était juste par rapport à d'autres qui étaient fausses. Et maintenant, c'est pas du tout ça. Il y a une espèce d'emprise d'une communauté avec une espèce d'un conformisme, voilà, qu'on peut pas remettre en cause. Et puis ça, c'est vrai, c'est vrai. Et puis voilà. Et puis donc, certaines choses paraissent et certaines choses ne paraissent pas. Et que la cosmologie, par exemple, pour revenir là, au début, c'est peut-être parce que c'est l'exemple le plus frappant, que la cosmologie à l'heure actuelle se résume à l'univers est-il fini ou infini, ben, on peut penser que du mal de ça. Enfin, c'est complètement fou. C'est-à-dire que ça veut dire qu'effectivement, la cosmologie est en train de se poser une question qui n'a pas lieu d'être. Donc, ben, qu'est-ce qu'on peut penser de la cosmologie? C'est que la cosmologie tournera, n'aboutira pas, certainement. De toute façon, elle ne pourra pas répondre à cette question-là, puisque ce n'est pas une. Voilà.
Oui, peut-être que c'est ça. La science actuelle tente de répondre à des questions qui n'en sont pas et qui ne peuvent donc pas être des réponses, si on peut résumer d'une façon peut-être un peu lapidaire. Votre propos sur la polémique, autrefois la polémique était ressentie comme quelque chose de noble. Je me souviens de notre ami Jean-François Gauthier qui avait appelé son livre « L'univers existe-t-il » sous-titre « Contre Hawking et les universistes ». Et l'éditeur lui a dit « Mais c'est pas bien d'être contre quelqu'un, ça sera mal ressenti ». Et Gauthier a dit « Non, c'est dans la grande tradition littéraire du Moyen-Âge, où l'on écrivait contre quelqu'un, mais d'une façon sainement polémique ». Cette saine polémique qui nous manque peut-être cruellement aujourd'hui, et ce que vous dénoncez d'ailleurs, Christian Magnan, tout à l'heure. Donc vous, je sais que votre livre, vos propos sont polémiques, mais sainement polémiques, je dirais. Vous insurgez, et vous insurgez en tant que scientifique de l'intérieur qui connaît sa matière et qui en connaît aussi les travers. Alors, est-ce que, d'abord, est-ce que vous pensez que, effectivement, vous attaquez à plusieurs choses, à la cosmologie, on pourrait dire à la cosmogonie? Quelles sont les limites de votre polémique? Est-ce que ça se limite à quelques petits travers ou à quelques questions qui n'en sont pas? Ou est-ce que ça va plus loin? Est-ce que vous récusez cette notion d'univers telle qu'on l'entend? Est-ce que la théorie du Big Bang, qui est quand même dénoncée par beaucoup de gens, est-ce que ça vous paraît satisfaisant? Ou est-ce que dans l'ensemble, il faut revoir beaucoup de choses? Est-ce qu'il faut, en d'autres termes, est-ce que votre polémique, elle est à grande échelle ou à petite échelle?
Ma polémique, elle n'est pas systématique d'abord. Elle est certainement, je ne sais pas, donc il faudrait préciser chaque point. À grande échelle, je crois qu'elle vise la science dans son ensemble, d'après ce que j'ai dit. Mais dans le fond, il ne faut pas croire que j'attaque tout, hein, loin de là. Et que justement, je défends tout à fait l'orthodoxie. Au contraire, prenons le Big Bang, justement, pour éviter de s'égarer trop et de prononcer des généralités qui sont toujours un petit peu difficiles, quoi. Qui peuvent conduire à des erreurs, à des inexactitudes. Pour le Big Bang, moi j'y crois tout à fait. C'est-à-dire que nous parlions tout à l'heure, si vous voulez, de ce modèle parfait. Ce modèle parfait du Big Bang, je crois qu'il a donné tout ce qu'il pouvait. Il était bien dans son domaine. Il ne faut pas simplement lui faire dire plus que ce qu'il voulait dire. Voilà, ça c'est ma position. C'est-à-dire que le Big Bang, pour moi, c'est évidemment vrai. Et tous ceux qui s'attaquent au Big Bang, non, je n'aime pas du tout. Parce qu'on pourra le dire, les gens s'attaquent au Big Bang souvent enfin ceux que je connais, pour des raisons métaphysiques. Et là, ça devient grave. D'ailleurs, en cosmologie, c'est déjà arrivé souvent. Et ça continue d'ailleurs, parce que la métaphysique, disons nos idées sur la vie, nos idées sur l'univers, nos idées sur l'homme, interfèrent avec la science. Et ça, c'est excessivement grave, c'est très grave. Donc voilà. Donc le Big Bang, oui, je ne conteste absolument pas le Big Bang. Ce que je conteste simplement, c'est que je dis que l'univers n'est pas simplement homogène, isotrope. C'est tout ce que je dis. Mais le Big Bang, dans son ensemble, je pense que c'est un concept qui est absolument vrai. Je ne le remets absolument pas en question. Non, ça, je crois que justement, c'est l'une des choses qui me frappe. J'ai osé dire dans mon bouquin, et ça fait aussi bondir beaucoup de gens, mais d'un certain côté, je persiste et signe. J'ai osé écrire que la science ne s'est jamais trompée. Et je persiste et signe, si on veut bien comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que les théories qui ont été établies, la théorie de Newton, elle est à jamais vraie. La théorie de la relativité générale d'Einstein, elle est à jamais vraie. Et c'est pas moi qui vais la remettre en question. Et justement, quand je reçois des... Et souvent, c'est vrai que des gens qui lisent entre les lignes interprètent mal mes pensées. Et souvent me prêtent des pensées que je n'ai absolument pas. Et c'est vrai que je récupère des lecteurs qui souvent me disent « Ah, voilà, quelqu'un qui conteste tout. » C'est pas du tout mon propos. Moi, le Big Bang, je suis tout à fait pour...
Oui, vous avez raison de rappeler ça, en tout cas de rappeler un mode de lecture de ce que peuvent dire les gens. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les propos, même quand je parle de polémique ou quand je parle Big Bang, effectivement, il faut vous lire, il faut savoir lire, je dirais. Et les choses ne sont pas si simples. Et c'est vrai que souvent, les gens pratiquent une espèce de zapping intellectuel. À partir du moment où vous dites une chose, ah, vous êtes contre ceci, vous êtes pour ceci. Non, on peut très bien être pour le Big Bang et récuser, par exemple, la notion d'un univers, si cet univers est pris comme un objet de science et si on fait des confusions. Je pense que vous êtes loin, justement, d'être un polémiste du genre, effectivement, je défends telle idée, et voilà, point. Non, vous avez des raisons, et je pense que il y a beaucoup de choses cohérentes en science qu'il faut garder. Quand vous dites que la science ne se trompe jamais, ça ne veut pas dire au sens premier qu'on peut pas récuser, ça veut dire simplement que les propositions, lorsqu'une observation est contraire à une théorie, il faut chercher ce que dans la théorie est à généraliser pour inclure cette observation, plus que simplement dire ça y est, tout est faux.
Oui, ce que je voulais dire plus précisément, c'est que les théories qui sont établies, elles sont établies. Encore une fois, la relativité générale, par exemple, elle est juste, à jamais. On ne pourra pas la remettre en question. Et s'il faut aller au-delà, et certainement il faut aller au-delà, eh ben, il faut inventer une autre théorie, mais qui englobe la théorie de la relativité générale. Sinon, effectivement, c'est lire tout le monde, d'ailleurs, savoir ce que les gens veulent dire. C'est vrai que sur cet aspect de la science, il est clair qu'il y a les deux aspects, et dans les idées que je défends, il y a toujours les deux aspects, c'est-à-dire que d'un certain côté, j'attaque l'hégémonie de la science, j'attaque le fait de considérer la science comme hégémonie, comme voulant tout savoir, tout posséder, etc., tout contraindre. Mais d'un autre côté, il est clair que c'est pas moi qui vais défendre l'astrologie, et donc je défends la science, je suis le premier, je serai sur tous les fronts pour défendre la science avec un grand S, contre justement toutes les travestissements de science. Donc il faut pas compter sur moi pour faire de la fausse science, de la faire de la science au de faire de la science avec des bricolages, etc. Ça, sûrement pas. Donc, je défends tout à fait la science orthodoxe. Mais simplement, pour reprendre un mot que j'ai employé, j'aime bien faire, pour reprendre des mots d'Annie Leclerc, d'ailleurs, qui était à propos du féminisme, parce que c'est un aussi de mes thèmes qui sont chers, qui faisait une différence entre pouvoir, justement, puissance, pouvoir masculin et puissance masculine. Je ferais exactement, si vous voulez, la même distinction, c'est-à-dire que je dirais la puissance de la science, oui, mais le pouvoir de la science, non.
Oui, ça pourrait presque être une belle conclusion, et je m'en veux un petit peu de surenchérir, parce que je crois que beaucoup de problèmes... Alors, je crois que dans tout ce que vous avez souligné, il y a deux choses à distinguer. Il y a effectivement l'approche assez superficielle, on va dire, du grand public, en tout cas des gens qui pensent que la science est avant tout un discours, une accumulation de faits, et que les scientifiques affirment. Et il y a ceux qui vont un petit peu plus loin, dont les scientifiques eux-mêmes, qui savent que la science, c'est une méthode, c'est une réflexion. Et il y a deux sortes de théories, on pourrait dire. Vous avez parlé du Big Bang. que l'on appelle la théorie du Big Bang, qui est plus une reconstitution, c'est un peu comme la théorie de l'évolution en biologie, on essaye de rassembler tout pour en faire quelque chose de cohérent, et il y a la théorie de la relativité, qui est plus une théorie du cadre, qui vous dit, voilà, la représentation du monde, c'est comme ça qu'il faut l'avoir pour synthétiser. Et je crois que pour finir, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que, avant tout, la science ne propose pas des réalités ou des images de la réalité, ou plutôt si, propose simplement des représentations, des images de cette réalité, et il ne faut pas y voir la réalité elle-même. Et ça, une fois qu'on le sait, on est moins choqué du caractère un petit peu abstrait de certaines théories. Donc ça, c'est peut-être le problème là vient de l'information telle qu'elle est distillée, l'information de la science qui est mal diffusée et qui engendre ce genre d'appréciation.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dirais que dans mon propos, il faudra peut-être justement le mot science est un petit peu ambigu. Il faut peut-être le préciser. C'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que je m'attache surtout, disons, à la science théorique parce que c'est le domaine auquel j'ai réfléchi. Et c'est vrai qu'il faut peut-être distinguer entre sciences, on va dire sciences fondamentales, les sciences de base, qui sont celles auxquelles je m'intéresse, et puis les sciences qui sont un petit peu les sciences, on va dire plus appliquées, les sciences qui justement modélisent un petit peu l'univers, mais d'une façon plus, on va dire, plus empirique, si vous voulez. Et bon, c'est vrai que moi, j'ai choisi de réfléchir sur le côté de la science fondamentale, parce qu'il me semblait que cet aspect-là, justement, n'était pas suffisamment remis en question. Parce qu'au fond, si vous voulez, à un niveau macroscopique, il est relativement facile de dire, bah, finalement, les modèles, c'est une approximation. Voilà, c'est peut-être le mot qui correspond. C'est peut-être une approximation de la réalité. Mais peu de personnes sont prêtes à croire, et c'est donc justement, c'est pour ça que je défends cette idée qu'au niveau fondamental, même au niveau fondamental, le modèle est complètement différent de la réalité. C'est pour ça qu'au niveau de l'univers, ça me paraît complètement important de le dire. Parce que tout le monde serait prêt à croire que finalement, l'univers, il est exactement ce que en disent les astrophysiciens. Et c'est ça que je contre. Et ça, la différence, elle est valable justement. Et donc, encore une fois, c'est ce point-là qui m'intéresse, c'est mon point particulier de discussion, même au niveau de la mécanique quantique, au niveau de la constitution de la matière. C'est à ce niveau-là que la science déjà... j'aime pas le mot approximation, pas du tout. Je dirais que la science, le modèle est en dialogue avec le réel, est en rapport avec le réel, mais qu'il ne s'identifie pas au réel. Je mets en exergue de ma page web rapport et non identité. Il y a un rapport entre la théorie, entre le modèle théorique et le monde réel. Il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. Appeler un chat, il y a un rapport, mais pas une identité. Aussi simple que ça, dans mon idée.
Voilà, et si vous voulez en savoir plus long, parce que il y a une information fort riche, il y a beaucoup de réflexions passionnantes de Christian Magnan sur son site web. Je ne vous rappelle pas l'adresse parce que je ne la connais pas par cœur, mais il est très facile de la trouver en passant sur notre site internet san-fr.com et vous prenez les pages conférences et je laisse la conclusion à Christian Magnan.
Non, ou tout simplement en faisant avec un moteur de recherche, cosmologie plus magnon, on trouve plus facilement, parce que c'est vrai que les adresses web sont un petit peu difficiles à donner.
Voilà, non, moi c'était un truc pour que les gens aillent sur notre site internet. D'ailleurs, c'est aussi rapide que par les moteurs de recherche. Je sais que beaucoup de gens y vont pour... comme un moteur de recherche. Voilà, eh bien, merci beaucoup Christian Magnan. Donc on aura plaisir à vous entendre ce soir lors de votre conférence.
Plaisir à parler avec vous, voilà.
Merci.